Il est capable de renvoyer, le premier, des astronautes dans l'espace, quitte à mettre la pression sur ses équipes.
SpaceX est réputé pour sa culture du surmenage, de l'épuisement professionnel. Le rythme de vie surchargé d'Elon est censé servir de modèle à ses employés. Mais ceux-ci n'ont pas les mêmes ressources que lui, et souvent pas la même motivation.
Devant tant d'énergie déployée, la NASA accorde à Elon Musk un privilège rare. SpaceX pourra envoyer ses fusées depuis le pad 39A. La mythique rampe de lancement de Cap Canaveral, le point de départ des missions Apollo vers la Lune. Ce trophée symbolique gagné par SpaceX, c'est la goutte de trop pour Jeff Bezos.
Ça l'embêtait de voir qu'Elon Musk devenait cette figure héroïque, ce pionnier de la conquête spatiale. Jeff Bezos avait lui aussi dépensé des millions pour atteindre le même objectif. Il y avait entre eux une compétition amicale. Ou peut-être pas si amical que ça, pour lancer des fusées, mais aussi pour être sous les feux des projecteurs et devenir le héros de la nouvelle ère spatiale.
À l'automne 2015, après des années de mystère savamment entretenu, Jeff Bezos dévoile enfin son engin spatial.
Track rate check good.
Une fusée baptisée New Shepard. C'est la première campagne de communication de Bezos en tant que patron de Blue Origin. Un lancement spectaculaire depuis la base spatiale de Van Horn. Sa fusée doit tenter un exploit, réatterrir à la verticale, comme dans un film de science-fiction, et devenir ainsi la première fusée réutilisable à atteindre la lisière de l'espace.
Depuis le patio à l'extérieur, on voyait la lumière, le nuage de poussière, et on s'est dépêché de revenir dans la salle de contrôle pour continuer à suivre la mission sur les écrans. Et après, c'était juste des cris, des bras en l'air, beaucoup d'excitation d'avoir été capable d'accomplir quelque chose que personne n'avait jamais fait auparavant.
C'est une première mondiale. Le milliardaire d'Amazon vient de coiffer au poteau SpaceX.
You've seen a lot of rockets take off in your time, but you've never seen one land. And all the rockets that we've ever flown as a civilization have been expendable. We use them one time and we throw them away. The rocket you're seeing behind me is completely reusable. That's a game changer because it changes the cost structure of space travel completely.
Fier de sa réussite, le patron d'Amazon lance son tout premier tweet.
Une bête très rare, une fusée réutilisable.
La fanfaronnade est vécue comme une provocation par Elon Musk, car la réutilisabilité, c'est son cheval de bataille depuis ses débuts.
Pas si rare. SpaceX a lancé la fusée Grasshopper il y a 3 ans, et elle est toujours là.
Elon Musk n'a pas l'intention de se laisser doubler. À peine un mois après Blue Origin, il va montrer de quoi il est capable. Après avoir volé jusqu'en orbite, beaucoup plus haut, plus loin que la fusée de Jeff Bezos, Falcon 9 atterrit à son tour à la verticale.
C'était un grand soulagement, et c'était vraiment génial.
C'était un grand moment pour SpaceX et Elon Musk, mais qui a été un peu refroidi quand Bezos a tweeté « Bienvenue au club », comme pour lui dire « Je t'ai devancé avec New Shepard ».
Entre le clan Bezos et le clan Musk, la guerre des tweets est déclarée.
C'était clairement la mauvaise chose à dire. C'est différent d'atterrir après avoir fait juste un saut de puce.
Il est évidemment beaucoup plus difficile de lancer et de faire atterrir une fusée qui va jusqu'en orbite, notamment en termes d'énergie. Ce que SpaceX a fait était bien plus difficile.
Bezos et Musk ont l'esprit de compétition. Ils n'ont pas l'habitude de partager le feu des projecteurs. D'une certaine manière, la scène, la pièce, est trop petite pour eux deux.
À ce moment-là, nous avions devant nous le début d'une incroyable course commerciale pour l'espace. D'un côté, Jeff Bezos, la personne la plus riche du monde, avait finalement dévoilé Blue Origin, et SpaceX tenait ses promesses de vol en orbite réutilisable avec Falcon 9.
Cette compétition tombe à pic pour les États-Unis. Avec le succès fulgurant de ses nouveaux investisseurs du privé, l'Amérique ouvre l'ère du New Space. Une révolution qui va impacter le monde entier. De l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, la montée en puissance du secteur privé américain n'a pour l'instant pas été prise très au sérieux. Le programme spatial européen, incarné par la fusée Ariane, s'est un peu endormi sur ses lauriers.
On avait 80% du marché commercial, ou 75% du marché commercial.
Dans cette période, on a clairement sous-estimé la menace américaine, c'est très clair.
Dès 2013, avec son premier satellite lancé en orbite, la compagnie américaine d'Elon Musk casse les prix, avec des vols 30% moins chers qu'Ariane 5, pour les mêmes performances.
La concurrence de SpaceX, à ce moment-là, commence à se faire sentir. Et oui, il y a bien sûr des clients qui ont fait le choix d'aller vers une fusée moins chère qui fonctionnait.
Ce qui nous a tous surpris, effectivement, c'est la vitesse à laquelle il est passé d'un petit lanceur à un gros lanceur concurrent d'Ariane 5.
En 2017, Ariane perd sa place de premier opérateur mondial au profit de SpaceX. À son tour par l'onde de choc du New Space, la Russie préfère ignorer la menace. Vladimir Poutine s'affiche sur le nouveau cosmodrome de Vostochny en Sibérie, symbole du renouveau spatial russe. Moscou se sent en position de force, car elle a un avantage majeur. Depuis que la navette américaine a pris sa retraite en 2011, la Russie est la seule nation du monde à pouvoir envoyer des hommes dans la station spatiale internationale.
L'agence spatiale américaine donne de l'argent à la Russie, donc à son équivalente qui s'appelle Roscosmos en Russie, plusieurs dizaines de millions de dollars à chaque fois pour transporter un astronaute.
Une belle revanche de la Russie sur les États-Unis. Mais en réalité, la place du spatial russe sur la scène internationale est fragile. La Russie fait face à une compétition croissante dans le secteur. En tête de ses nouveaux concurrents, la Chine. En envoyant un premier taïkonaute en orbite en 2003, l'Empire du Milieu est devenu le troisième pays, après la Russie et les États-Unis, capable de réaliser un vol habité dans l'espace. La Chine est entrée dans le club très fermé des puissances spatiales. Le président Xi Jinping soutient avec ferveur ce qu'il estime être une partie intégrante du rêve chinois.
Pour le président Xi Jinping, la science et technologie est le moteur premier du développement national, et c'est ce qui permettra à la Chine de devenir la grande puissance internationale et de dépasser les États-Unis.
Le régime de Pékin observe d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt la percée de SpaceX et Blue Origin aux États-Unis et s'en inspire directement.
En Chine, il y a une grande fascination par rapport au modèle d'innovation mais aussi de financement de l'innovation aux États-Unis. Et donc on a vu fleurir ces dernières années, particulièrement à partir de 2014, un New Space chinois.
Un New Space chinois qui rêve de suivre le chemin de SpaceX. En quelques années, le nom d'Elon Musk est devenu célèbre dans le monde entier, érigé en modèle de réussite. Sollicité par le cinéma pour faire une apparition dans le film Iron Man, l'homme d'affaires est vénéré tel un super-héros par une cohorte de fans. En septembre 2016, ils sont des centaines à se presser au Congrès international d'aéronautique. Le milliardaire est attendu sur scène, Il doit révéler son grand plan pour le futur. Le Congrès se transforme alors en show de rockstar.
Il y a eu une course générale pour arriver au premier rang. J'ai rejoint la bousculade et j'ai couru avec un groupe de reporters pour être près du micro et avoir une chance de lui poser des questions à la fin.
Please, join me in welcoming Elon Musk.
À 45 ans, Elon Musk est prêt à dévoiler publiquement sa vision. Une révélation aux accents messianiques.
I don't have an immediate doomsday prophecy, but there's eventually history suggests there will be some doomsday event. The alternative is to become a spacefaring civilization and a multi-planet species. That's what we want. Yeah.
Coloniser Mars. Voilà le projet de Musk, l'aboutissement de ses rêves d'adolescent. Devant un public médusé, il annonce la construction d'une nouvelle fusée gigantesque de 120 mètres de haut, quatre fois la taille d'Ariane 5. Une fusée entièrement réutilisable, le Starship. Elle permettra d'envoyer 1 million d'humains sur Mars, d'ici 30 ans, pour vivre dans une cité autonome. Premier vol prévu pour la planète rouge dès 2024.
Il a su redonner à l'épopée spatiale une sorte de matérialité qui était sans doute un peu perdue par la technicisation du spatial. On parle beaucoup de satellites, on parle d'objets techniques. Et lui, il redonne un peu cette épopée de Jules Verne, voilà, c'est le voyage dans la Lune, etc.
It would be an incredible adventure. I think it would be the most inspiring thing that I could possibly imagine.
Mais si ses fans sont emportés par sa vision du futur, beaucoup d'experts de l'industrie spatiale sont, une nouvelle fois, sceptiques face aux ambitions de Musk.
Ils ont vu ça et se sont dit, c'est ridicule. Ce type est complètement mégalo, il est fou. Si c'est vraiment ça son but, nous devons le rejeter.
Les professionnels de l'espace doutent de sa capacité à faire de Mars une planète B.
Une aventure vers Mars, c'est important parce que pour une équipe de scientifiques, pour vraiment répondre à des questions fondamentales, mais on n'est pas dans une position aujourd'hui de se dire, voilà, on peut à grande échelle envoyer des gens sur Mars. Quiconque dit ça aujourd'hui, malheureusement, n'est pas entièrement honnête, je pense.
Qu'importe les critiques, Elon Musk met tout en œuvre pour réaliser son rêve. Et il a construit son propre spatiodrome dans ce but ultime. À Boca Chica, près de la frontière mexicaine, cette ancienne réserve en bordure de plage est devenue la Starbase, la nouvelle usine à ciel ouvert de SpaceX. Un immense complexe spatial construit directement sous les fenêtres des habitants du village. Comme Maria, la voisine la plus proche de la Starbase.
C'est drôlement froid aujourd'hui. Voilà. C'est ma maison. C'est la maison juste là, derrière l'arbre, à côté de la métallerie. SpaceX est sorti de terre au milieu des hautes herbes. C'était inconcevable qu'ils puissent construire leur prototype au milieu de nulle part. Et tout ça est arrivé ici, juste devant la fenêtre de ma chambre, que vous ne pouvez plus voir aujourd'hui parce que c'est entouré par SpaceX.
Maria a, depuis, dû déménager pour laisser la place à l'immense Starship. Ici, Elon Musk construit sa fusée pour Mars, littéralement sous les yeux du grand public. Des milliers de visiteurs chaque mois. Une vitrine pour vendre son projet grandiose.
Vous avez l'impression de faire partie de l'équipe, bien que je n'ai rien à voir avec tout ça. J'aide à montrer ce qui se passe et c'est vraiment génial.
Merry Christmas from Starbase, Texas.
Nous sommes en direct de la Starbase au Texas. Je m'appelle Jessica Kirsch.
Des fans comme Jessica, très actifs sur les réseaux sociaux, filment et dissèquent chaque étape de la construction de la fusée de SpaceX et répandent dans le monde la religion martienne d'Elon Musk.
Nous sommes en train de regarder le bras de déconnexion rapide attaché à la tour d'intégration de lancement orbital. Ici, sur le pas de tir de la Starbase. C'est une nouvelle ère spatiale. Je suis tellement excitée. J'espère que j'irai à bord d'un de ces vaisseaux un jour. J'adorerais ça.
Ravi de ce buzz spontané, Elon Musk n'hésite pas à ouvrir les portes de sa Starbase aux youtubeurs les plus en vue. Peu friand des interviews traditionnelles dans les grands médias, il préfère discuter avec ces jeunes geeks qui lui ressemblent.
Optimization of cost per ton to orbit and then ultimately cost per ton to the surface of Mars. Right.
L'entrepreneur a compris que conquérir le public était aussi important que conquérir l'espace. Et il multiplie les coups d'éclat avec une imagination sans limite. Le voilà qui transforme en 2018 l'essai de son nouveau lanceur Falcon Heavy en grand spectacle spatial. Dans la tête de son nouvel engin, il a mis une charge utile beaucoup plus cool que les habituels sacs de sable, sa propre voiture de sa marque, Tesla.
C'était vraiment fou et un incroyable coup de pub, car le lendemain, c'était à la une de toute la presse mondiale.
Le monde entier regardait ce mannequin en combinaison d'astronautes assis au volant d'une Tesla. C'est une image iconique de ce que les entrepreneurs privés peuvent faire dans l'espace et du futur qui nous attend.
Sa voiture flotte désormais jusqu'à la fin des temps dans le vide intersidéral. Jeff Bezos également veut occuper le devant de la scène spatiale. En mai 2019, lors d'une présentation grandiose à Washington, il dévoile enfin son jeu. Comme Musk, le patron d'Amazon se rêve lui aussi en sauveur de l'humanité. Son grand projet, d'immenses stations spatiales, de véritables mondes flottants pour accueillir les terriens et surtout leur industrie.
These are very large structures, miles on end, and they hold a million people or more each. But heavy industry and all the polluting industry, all the things that are damaging our planet, those will be done off Earth. We get to preserve this unique gem of a planet, which is completely irreplaceable. There is no plan B.
Cette vision du futur est peut-être un peu moins négative que de dire « Nous détruisons la Terre, donc il faut trouver une nouvelle planète. »
Première étape dans cette lointaine conquête spatiale, la Lune. L'entrepreneur lève le voile sur un projet spectaculaire. Un projet qui pourrait faire de Blue Origin un partenaire clé de la NASA.
Let me show you something. On this lander for 3 years. It's a very large lander. It'll soft land in precise way onto the lunar surface.
Si le milliardaire a financé ce coûteux projet d'alunisseur, ce n'est pas par hasard. Il a senti le vent tourner sur la scène internationale. Le satellite de la Terre, un peu oublié depuis la première conquête spatiale, est en train de revenir au centre du jeu. Cette même année, la Chine a réussi l'exploit de chatouiller l'orgueil américain et relancer la course à la Lune. Avec leur module Chang'e 4, les Chinois viennent de poser un robot sur la face cachée de la Lune, là où personne n'était jamais allé. La Chine est devenue la deuxième puissance spatiale derrière les États-Unis, devant l'Europe et la Russie. Il construit sa propre station spatiale et est désormais la nation qui lance le plus de fusées dans le monde. Premier objectif de la Chine, envoyer des hommes sur la Lune et y créer une base permanente d'ici 2030. La réaction américaine ne se fait pas attendre. Avec l'arrivée de Donald Trump à la présidence, la Lune redevient une priorité pour Washington.
The directive I'm signing today, it marks an important step in returning American astronauts to the moon for the first time since 1972 for long-term exploration and use. This time, we will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars and perhaps someday to many worlds beyond.
C'est la naissance d'Artemis, un programme pour ramener les Américains sur la Lune avant la Chine.
Cut through the fictions of science. We are going.
We're going.
We are going.
We are going.
We're going.
Mais contrairement à la première course à la Lune, cette fois, l'enjeu est différent.
La course aux étoiles des années 50-60 était un problème de domination mondiale. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il s'agit de prendre un marché. Qui sera le premier à vendre le plus, à lancer le plus de fusées? Et qui sera à la tête de cette industrie?
Qui fabriquera pour l'Amérique le module